Amen. Donc encore merci pour cette invitation et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire dans le sens que ce matin, je ne veux pas que ce soit moi qui parle. Parce que vous savez, il y a deux façons d'apporter la parole de Dieu. Je peux avoir une pensée, puis trouver des versets pour la justifier, ou je peux lire la parole, comprendre qu'est-ce qu'elle me dit et la présenter. Et c'est ce que je veux faire ce matin, c'est lire la parole, lire le texte dans son contexte, parce qu'un texte hors contexte n'est qu'un prétexte. Donc, il faut lire son texte dans le contexte qui a été écrit, dans le contexte culturel, dans le contexte historique. Et ce matin, le message qu'on va regarder, ce sera probablement rien de nouveau pour vous, mais ce sera certainement un bon rappel. Et le titre de ce message, c'est « Jésus qui nous dit, je suis le pain de vie ». Et on va lire comme texte, deux textes, un dans Exode 13. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder à l'écran, les versets seront affichés. Exode 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est ton nom ou quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Et on va lire ensemble Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 6 et le verset 35. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Seigneur, on te remercie pour ta parole inspirée par le Saint-Esprit comme notre autorité suprême en matière de foi. Je te prie que tu bénisses cette parole dans nos cœurs, qu'elle puisse ranimer notre amour pour toi, Seigneur, nous donner ce zèle pour proclamer qui tu es, le pain de vie. Amen. Dernièrement, j'écoutais une vidéo et les interlocuteurs discutaient vraiment de la religion et débattaient à savoir si la religion jouait un rôle positif ou non dans notre société. Ce qui était clair pour moi, c'est que pour beaucoup de gens, la religion, pour eux, c'était une invention de l'homme. Conséquemment, pour eux, Dieu était une invention de l'homme. On a inventé Dieu pour se réconforter. Et la plupart étaient en faveur de la spiritualité, mais ils reniaient la possibilité d'un Dieu personnel et éternel. Je suis partiellement, je dis bien partiellement d'accord avec eux. Il est vrai que la plupart des religions sont des inventions de l'homme. Mais je suis totalement en désaccord avec le fait que, selon eux, Dieu soit une invention de l'homme. Les dieux de la religion sont une invention de l'homme. Cependant, Dieu, le grand Je suis, l'Abba Père, n'est pas une invention de l'homme. Dieu, le Dieu de la Bible, Yahweh, est un Dieu éternel qui n'a ni inventeur et qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas été inventé, il est en fait l'inventeur ou le créateur de toutes choses. Il est le début de toutes choses, il est la fin de toutes choses. Le Dieu de la Bible n'est pas une invention, il est en fait une révélation. Dieu, notre Dieu, est celui qui se révèle à celui qui le cherche. C'est pourquoi on n'a pas à prouver l'existence de Dieu, parce que notre Dieu, il ne se prouve pas, il se rencontre. Et de façon consistante, depuis toujours, dans tous les livres des Saintes Écritures, Dieu fait des efforts pour se révéler à l'homme. Et l'homme rencontre Dieu. Et le texte qu'on a lu est un exemple de Dieu qui s'est révélé à un homme, Moïse. Il se révèle comme Yahweh, qui veut dire « Je suis ». Dieu se révèle comme étant celui qui est. En d'autres mots, je suis celui qui est. Avant toute chose, je suis. Après toute chose, je suis. Dieu n'est pas une invention de l'homme. Il est. Il est parce qu'il est. Il se révèle à l'humanité et à sa création. Il se révèle à ceux qui le cherchent. « Tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi. » Si Yahweh n'était qu'une invention, il aurait cessé de se révéler. Plus personne ne le rencontrerait. Mais constamment dans l'histoire, et encore aujourd'hui, en 2025, Dieu se révèle. Dieu rencontre des hommes et des hommes rencontrent Dieu. On le rencontre, il est toujours vivant. Encore aujourd'hui, sur la planète, des hommes, des femmes rencontrent Dieu et leurs vies sont transformées, sont bouleversées. C'est un 180 degrés parce qu'ils ont rencontré le Dieu de la Bible. Ils n'ont pas rencontré une religion, ils ont rencontré le Dieu vivant. Celui qui nous a créés, qui a créé toutes choses. Ils sont bouleversés par Dieu, renouvelés par Dieu, transformés par Dieu. C'est plus la même personne. Qu'est-ce que t'es toi? Je te reconnais plus. J'ai rencontré Jésus. Et après s'être révélé à Moïse et à d'autres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce même Dieu, je suis, continue à se révéler à son peuple et de façon plus large à l'humanité. Il continue à se révéler par son Fils Jésus-Christ. Il continue lorsqu'il déclare dans Jean 8, 58, Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus se révèle alors comme égal à Dieu. Il est la continuation de la révélation de Dieu à sa création. Et pendant son passage sur terre, Dieu, par son Fils Jésus, continue à se révéler à l'humanité. Il se révèle progressivement. Et Jésus se révèle comme étant le Fils de Dieu. Et c'est étonnant lorsqu'on lit dans Jean du chapitre 6 à chapitre 12 comment il tente de se révéler par toutes sortes de manières. Le Fils prend le temps au cours de sa vie sur terre de préciser qui il est pour nous, pour ceux qui veulent le suivre. Jésus précise qui il est en s'appropriant le « Je suis » de Yahweh, de l'Ancien Testament. Il se met au même niveau que Dieu le Père. Et il complète le « je suis » avec des métaphores qui nous révèlent qui il est pour l'humanité. Dans l'Évangile de Jean, Jésus se présente, s'identifie, se révèle au moyen de sept « je suis ». Et initialement, je pensais pouvoir vous présenter les sept « je suis » dans un seul message. Mais en creusant, en voyant la profondeur de chacune de ces révélations, ce matin, je pensais de m'en tenir à trois. Mais finalement, ce serait encore trop. Je vais m'en tenir à un. À moins que vous vouliez souper ici, on peut aller à travers les sept. Premièrement, et avec insistance, Jésus se révèle à nous comme étant le pain de vie. Jean 6, verset 35, il dit, « Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et le pain, si vous êtes d'accord, c'est considéré comme un aliment de base. Une personne peut survivre longtemps avec seulement du pain et de l'eau. Le pain est un aliment tellement fondamental qu'il devient le synonyme de la nourriture en général. On connaît tous l'expression, tout le moins en Acadie, on disait ça, « Ben, je vais aller travailler, il faut bien mettre du pain sur la table. » Dites-vous ça ici? Oui. Ou encore, comme on disait, « La beauté, ça ne met pas du pain sur la table. » En d'autres mots, on va travailler, tu sais. Puis je vous le garantis, c'est vrai, là, j'ai essayé ça, là. Puis même avec ma beauté, il a fallu faire le travailler. Fait que c'est vrai que le pain, ça ne met pas du pain sur la table. Fait que j'ai été travailler. Les Juifs devaient manger du pain sans levain pendant la fête de la Pâque, puis pendant les 7 jours suivants pour célébrer leur délivrance d'Égypte. Ce rite leur rappelait qu'à la suite de la libération de l'esclavage égyptienne, de leur séjour dans le désert, Dieu soutenait son peuple avec la manne, le pain tombé du ciel. On voit ça dans Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Et la Bible n'évoque nulle part la composition chimique de la manne. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'elle ressemblait à de la graine de coriandre, qu'elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. La manne a donc été du pain véritable que Dieu faisait miraculeusement apparaître chaque matin pendant tout le temps que les Israélites ont passé dans le désert. Du pain du ciel pour les maintenir en vie, pour les soutenir. Et le miracle de la manne a cessé peu après l'entrée des Israélites dans la terre promise. Et on voit ça dans Josué 5, 10 à 12. Le peuple sortit du désert, la terre promise atteinte, la manne cessa, le pain du ciel cessa, le pain qui soutenait leur vie tous les jours pendant 40 ans cessa. Et si on se transporte plus ou moins 1400 ans plus tard, à un temps où le peuple célébrait la Pâque pour se rappeler, entre autres, comment Dieu avait pris soin de son peuple dans le désert, Jésus y va d'une déclaration choc. Dans Jean 6, 32, nous dit, « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et le contexte qui précède cette déclaration, c'est important. Selon le chapitre 5 et 6 de l'Évangile de Jean, le jour avant cette déclaration, une grande foule suivait Jésus. Parce que les gens voyaient de nombreux miracles qu'il faisait. Ils voyaient les guérisons des malades. Il y a eu la guérison du fils d'un officier romain, la guérison d'un homme infirme à la piscine de Bethesda. Et là, Jésus monte sur la montagne. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait tous les miracles qu'il faisait. Et là, il s'assit avec ses disciples. La Pâque était proche. Une grande foule venait vers lui. Jésus dit à Philippe, « Où c'est qu'on va acheter du pain pour tout ce monde-là? » Jésus disait ça, évidemment, pour le mettre à l'épreuve, car lui-même, il savait très bien ce qu'il allait faire. André, le frère de Simon, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces 5 000 hommes, femmes et enfants. » On est probablement rendu à 7 500, 10 000, on ne sait pas. À ce moment-là, on comptait seulement les hommes. Jésus, non, c'est vrai. Désolé. Talk about exclusion. Jésus a pris les pains, il a remercié Dieu, il les a distribués aux disciples qui leur donnèrent à ceux qui étaient là. Il les distribuait des poissons autant qu'ils en voulurent. Une fois qu'ils ont eu mangé, Jésus leur dit, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Et le peuple fut nourri. Jean 6, 14 nous dit, « À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais pour comprendre ce que le peuple est en train de dire, c'est que le peuple pensait que Jésus était le prophète qui doit venir. Il faut comprendre que suite à la révélation par Dieu de la loi sur le mont Sinaï, le peuple, qui avait la crainte de Dieu, ont demandé, « Ne nous parle plus directement à l'avenir, parle-nous par un prophète. » Parce qu'ils voyaient la colonne de feu, le tremblement, ils avaient peur. Fait qu'on veut que tu nous sollicites des prophètes. Et puis là, ça faisait 450 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. C'était le silence total. Fait que le peuple était donc en attente d'un autre prophète, comme Moïse. Et comme Moïse avait nourri le peuple et l'avait libéré de l'esclavage égyptien, la foule s'imaginait que Jésus allait nourrir le peuple, qui avait nourri le peuple, il pourrait aussi les libérer de l'esclavage romain. Mais Jésus n'est pas un simple prophète terrestre. Il n'est pas un porte-parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est parole incarnée. Il est Dieu fait chair. Il n'est donc pas venu pour se révéler comme un prophète, comme porte-parole. Il est la parole. La foule en rajoute au verset 15. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Pour être libéré de l'esclavage romain, certains du peuple avaient pour plan de le couronner roi, roi d'Israël. On pourrait dire que c'est une répétition de la tentation par Satan dans le désert. Hein? Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout ça si tu viens te prosterner et m'adorer. » Mais Jésus résiste encore aujourd'hui, à ce moment-là, sachant qu'il serait non pas proclamé seulement roi d'Israël, mais qu'il serait proclamé roi des rois, seigneur des seigneurs, non pas par les hommes, mais par Dieu le Père. Il n'est pas le roi d'Israël, il est le roi de toute la création. Et Jésus s'enfuit, ne voulant pas se faire déclarer simple roi terrestre. Ces gens, en fait, voyez-vous, n'avaient rien saisi. Ils pensaient trop terrestre. Ils n'avaient rien saisi de ce que Jésus tentait de leur révéler. Ce que Jésus tente de leur faire saisir, c'est « Je suis le Messie, je suis le pain de vie, je suis celui que vous attendez, je suis celui dont le prophète Ésaïe a parlé. Je ne suis pas venu pour une délivrance terrestre, mais pour une délivrance spirituelle. » Le soir venu, ses disciples descendent au bord du lac. Ils montent dans une barque pour traverser le lac et ils se rendent à Capernaum. Il faisait déjà nuit, Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence, le lac était agité. Après avoir ramé environ plus ou moins 5 kilomètres, ils voient Jésus qui marchait sur l'eau. Il s'approchait de la barque. Ils ont eu la trouille. Ils croyaient que c'était un fantôme. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Vraiment, ce qu'il leur dit, c'était, « Je suis, n'ayez pas peur. Je suis celui qui maîtrise les éléments, n'ayez pas peur. Je suis celui qui calme la tempête, n'ayez pas peur. Je suis celui qui protège mes enfants, n'ayez pas peur. N'aie pas peur, je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs, église de Pentecôte d'Edmundston, je suis le maître qui conduit cette église dans la tempête, ne craignez rien, je prends soin de vous. » Et en voulant aider Jésus, regardez bien comment Jésus leur démontre qu'il est en contrôle dans Jean 6, 21. Moi, je n'avais jamais vu ça. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi, ça m'a frassé comme une brique de ciment dans le front. Jean 6, 21. Il voulut alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Je ne sais pas si c'est parce que d'habitude, je lisais ma Bible, puis elle disait des coudées. Là, ça parle de kilomètres dans ma version. Puis là, ça dit qu'ils ont ramé plus ou moins 5 kilomètres. J'ai été fouillé là-dedans, le lac avait 13 kilomètres. Fait que là, ce que ça dit, c'est que dès que Jésus a mis sa main sur la barque, les 8 autres kilomètres, ils ont fait gratos. Ben oui! Là, j'ai dit, c'est-tu moi qui rêve à ça? J'ai été fouillé 3-4 commentaires. C'est exactement ça que ça dit. Aussitôt qu'il a touché la barque, les 8 autres kilomètres, ils sont juste arrivés. Paf! Ce que ça veut dire, c'est que 13,5 kilomètres, ils ont fait 8 kilomètres gratos. Puis ça, ce que ça nous dit, c'est lorsque Jésus a une destination en tête, il accélère l'arrivée à destination. Une délivrance qui peut prendre des années peut se faire en un clin d'œil. Une réconciliation qui semble impossible peut se faire maintenant. Un rétablissement qui peut prendre des mois peut être accéléré si Jésus touche cette personne. Lorsque Jésus touche, on arrive à destination. Le lendemain, ceux qui n'avaient pas traversé de l'autre côté, où ce que Jésus et les apôtres étaient rendus, ils avaient bien remarqué que Jésus était parti après les autres, puis qu'il y avait juste une seule barque. Là, Jésus n'était pas monté avec ses disciples, puis qu'il était parti tout seul. Ils se sont dit, Jésus doit être alentour. On a vu les apôtres partir, puis Jésus est resté là. Il n'y avait pas d'autre bateau. Jésus doit être alentour. Ils se sont mis à chercher Jésus. Là, ils ont dit, coudonc, il n'a toujours même pas marché sur l'eau. Pour traverser, cherche pas de Jésus. Là, ça nous dit dans le texte que là, il y a d'autres bateaux qui arrivent. D'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils se sont dit, bon, ben, on va prendre un bateau, il doit être de l'autre bord, on prend la barque, puis on va se traverser l'autre bord à Capernaum, on va aller chercher Jésus. C'est 13 kilomètres pour eux autres, par exemple. Mais la tempête est calmée. Ils ont trouvé Jésus de l'autre côté du lac et lui dire, « Mais, quand est-ce que tu es venu ici, toi? » Là, Jésus ne répond pas à leur question. On voit ça dans le verset 26. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus, au verset 27, leur dit, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Jésus ne répond pas à leur question, mais il dévoile leur cœur. « Vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des signes, pas parce que vous pensez que je suis le Messie comme j'essaye de vous le démontrer, mais vous me suivez parce que vous avez mangé du pain puis que vous êtes rassasiés. Ils ne se soucient, ces gens-là, que de leur bedaine, leur vie terrestre. En d'autres mots, il leur dit, vous me suivez pour les mauvaises raisons. Vous me suivez pour des raisons charnelles. Et malheureusement, encore aujourd'hui, des gens suivent Jésus pour de mauvaises raisons. Suivent Jésus non pour le servir, mais pour être servi par lui. Non pour qui il est, mais pour ce qu'il fait. Moi, j'aime ça quand mes enfants, ils m'aiment, pas pour ce que je lui donne, pour qui que je suis. Si tu bien dis, c'est qui que je suis. Tra- Travaillez pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car en d'autres mots, cette vie que je suis venu vous donner, et essayez de le dire, car je suis le seul homme, le seul qui a été, le seul moyen par lequel on peut obtenir cette vie, c'est la seule qui a été approuvée par le Père. Et il y a un danger de suivre pour ce qu'il peut faire pour nous, ici, maintenant, ici-bas seulement. Nos yeux doivent toujours être fixés là-haut, vers la récompense, vers la promesse à venir, vers le siècle à venir, vers la nouvelle Jérusalem, vers ce lieu où tout sera paix, justice, bonté, amour. Mais en attendant, c'est struggle, c'est combat. Et ces gens poursuivent leur discours en ajoutant, on voit ça dans Jean 6, verset 28, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » La religion des œuvres. Que devons-nous faire? Et Jésus leur dit au verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est sainte. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Eux, ils le regardent. « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions que vous croyons en toi? Que fais-tu? » Verset 31, « Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. » Il leur a donné le pain du ciel à manger. Mais toi, Jésus, que fais-tu pour que l'on croie en toi? Voyez, les gens qui courent après Jésus pour ce qu'il fait, ils sont complètement aveugles. C'est quoi qu'on doit faire? Quel travail, quelle œuvre dois-je accomplir pour mériter la vie éternelle? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en moi, leur dit-il. Toi, Jésus, que fais-tu pour que l'on croie en toi? Pourtant, ils l'ont vu faire des miracles à profusion. Vous vous souvenez, c'était juste la veille. Ils guérissaient des gens. Ils l'ont vu multiplier le pain et le poisson. Ils ont des bons doutes. Qui a marché sur l'eau. Mais après tout ça, ils disent, tu n'es pas encore assez fait. Quel signe miraculeux fais-tu, hein, pour qu'on croie en toi? Et en 2025, que fais-tu, Dieu, pour que l'on croie en toi? À part l'univers que tu as créé avec une précision incroyable, à part t'être sacrifié pour nous, à part avoir vaincu la mort, à part de nous donner un but pour notre vie, à part la paix que tu donnes, à part le sens à la vie que tu donnes, à part la vie éternelle que tu promets, donne-moi un prophète, donne-moi une guérison, accorde-moi une délivrance, fais de quoi, Jésus, pour que je croie en toi? Envoie le réveil, utilise-moi pour que je croie en toi. Jésus, si tu veux que je croie en quoi, fais de quoi? Que fais-tu, hein? C'était leur discours, d'une certaine manière. Et verset 32, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ah ouais, donne-nous-le. » Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Je suis le pain de vie. » Voici ce qu'ils essayent de leur communiquer, puis eux, dans leur cœur, sont incapables de voir au-delà de leur vie terrestre. Jésus est le pain de vie descendu du ciel, et parce que je suis descendu du ciel, je peux guérir comme je vous l'ai démontré. La multiplication des pains, combien de baguettes en voulez-vous? Marcher sur les eaux, c'était de la glace, je suppose. Calmer la tempête, coïncidence météorologique peut-être. Mais tout ce déploiement de puissance a pour but une seule chose, révéler à tout homme et à toute femme que la raison primaire pour laquelle Jésus se manifeste à un homme, à une femme, à un enfant, c'est pour lui révéler que Jésus est le pain de vie et c'est lui seul qui donne la vie éternelle. Le reste, c'est du gravy. Mais l'essentiel de notre foi doit être Jésus-Christ, pain de vie. Parce que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et c'est ça qui donne la vie au monde. Seul le pain de vie donne la vie au monde. Et premièrement, en s'assimilant au pain, Jésus est en train de nous dire qu'il est essentiel à la vie. Deuxièmement, la vie à laquelle Jésus fait référence n'est pas la vie physique, mais la vie éternelle. Jésus essaye de faire passer la pensée des Juifs du domaine physique au domaine spirituel. Il fait le lien entre ce qu'il apporte en tant que Messie et le pain qu'il a multiplié la veille. Je suis venu pour donner la vie et soutenir la vie pour la multitude, et il n'y a pas de limite au nombre de personnes que Jésus, le pain de vie, peut nourrir. Amen. Le pain multiplié est du pain physique qui périt, mais Jésus est le pain spirituel qui donne la vie éternelle. Mangeons ce pain de vie. Mangeons ce pain de vie. Mangeons ce pain de vie. Et parfois, comme le peuple dans le désert, la manne à tous les matins, ça pouvait sembler rough un petit brin. Puis des fois, dans notre vie, tout ce qui nous reste de notre foi, parce que des fois, on est tellement dans la difficulté, dans le combat, mais tout ce qui nous reste, c'est le pain de vie. Mais j'aimerais vous dire que c'est suffisant. C'est suffisant. Et de la même manière que le peuple s'est nourri pendant 40 ans de manne, et malgré qu'ils ont tourné en rond, malgré les combats, malgré les difficultés, un jour, ils sont entrés dans la terre promise. Et de la même manière, si nous nous nourrissons constamment de ce pain de vie qu'est Jésus-Christ, un jour, également, nous rentrerons dans la terre promise, promis par notre Dieu. Et à tout jamais, nous serons libres, guéris, en santé tout le temps. Mais pendant ce temps, sur cette terre, des fois, la vie est rough. Jésus n'a jamais promis que notre route ne serait qu'un jardin de roses. Mais il nous a promis une pente-côte. La vie, c'est comme ça, une pente, une côte, une pente, une côte. Et si ça, ça ne vous arrive pas, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Et n'écoutez pas ces gens qui essayent de vous dire que accepte Jésus, tout va bien aller. Et souvent, l'Évangile, elle est mal présentée. Elle est présentée comme une solution à tous tes problèmes, right now. Et le pain de vie n'est pas présenté. La raison pour laquelle il est venu au Seigneur, c'est pour une guérison, une réconciliation, réparer un mariage. Et là, ça n'arrive pas, ils n'ont pas mangé le pain de vie, ça ne marche pas ton affaire, goodbye. Le pain de vie doit être ce que les gens reçoivent. Ils croient en Jésus-Christ, non pas une croyance comme le démon croit en Jésus, mais ils croient en Jésus en qui il est. Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu, Sauveur. Et personne dans la Bible, nulle part dans la Bible, ça dit « Accepte Jésus dans ton cœur ». Désolé, ce que la Bible nous dit, « Repentez-vous et croyez ». Repentez-vous, mangez le pain de vie, recevez la vie éternelle. Troisièmement, Jésus revendique encore une fois sa divinité. Cette déclaration est la première des déclarations « Je suis » dans l'Évangile de Jean. C'est aussi une phrase que les Juifs qui écoutaient auraient automatiquement compris qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Mais ils refusaient de croire. Quatrièmement, remarquez les mots « venir » et « croire ». C'est une invitation pour ceux qui écoutent à placer leur foi en Jésus en tant que Messie, Fils de Dieu. Croire en Jésus signifie mettre notre foi en ce qu'il dit qu'il est. Pas un Jésus selon notre propre conception. Un Jésus Père Noël. Un Jésus Papa Gâteau. Mais un Jésus qui a livré son corps, son sang, afin que nos péchés soient pardonnés. Cinquièmement, il y a les mots « faim » et « soif ». Évidemment, Jésus ne parle pas de soulager la faim et la soif physique, bien qu'il est possible qu'il pourvoie nos besoins physiques. Mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut se référer à une déclaration faite par Jésus dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, 6, Jésus dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et quand Jésus dit que ceux qui viennent à lui n'auront jamais faim et ceux qui croient en lui n'auront jamais soif, il dit qu'il satisfera notre faim et notre soif d'être juste devant Dieu. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être juste devant Dieu. Non pas par mes propres mérites, mais parce que Jésus-Christ me rend juste. Et lorsqu'il me regarde, il ne voit pas mes fautes, il ne voit pas mes péchés, il voit le sang de Christ. Et je suis juste devant lui, non pas par mes propres mérites, par mes propres gloires, par mes propres œuvres, par mes dons, par mon appel, par ceci ou par cela, mais purement et simplement par le pain de vie, le sang de Christ. Celui qui mange de ce pain sera juste devant Dieu. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement dans un royaume de justice. Et à cette déclaration de Jésus, « Je suis le pain de vie », certains disciples ont dit, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment il pourrait être, lui, descendu du ciel? » C'est qui a fumé là, aujourd'hui. Là. Jésus continue et explique comment le pain représente son corps qui sera meurtri pour nous à la croix. Et au verset 55, c'est dit, « En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. » Et le secret de la longévité en Christ n'est pas une guérison, une manifestation. Le secret de la continuité ou de la longévité en Christ, c'est que je demeure en lui et que lui demeure en moi. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples disent, « Oh, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ils arrêtèrent de marcher avec lui. Ils ont pris la décision d'arrêter de marcher avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils le suivaient pour les mauvaises raisons. Au-delà des miracles, au-delà des manifestations de la puissance de Dieu, au-delà des clins d'œil que Dieu nous fait, au-delà de tout ce qu'il a fait pour se révéler à nous, la clé pour continuer de marcher avec lui, sur la montagne, comme dans la vallée, dans les bons, dans les mauvais jours, c'est de reconnaître et de ne jamais oublier que seul Jésus est le pain de vie. Sans le pain de vie, il n'y a pas de vie. Celui qui a le Christ, le pain a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, n'a pas la vie. Et tout comme Dieu a soutenu son peuple dans le désert pendant 40 ans, notre pain du ciel, Jésus, nous soutiendra pendant notre pèlerinage sur la terre. Je ne dois jamais oublier que son corps, comme notre frère nous l'a rappelé ce matin, a été meurtri pour moi. Que la dette de mon péché a été payée par son sang à la croix. Que par sa mort et sa résurrection, je reçois la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ça, et ça seulement, devrait être une raison suffisante pour moi de persévérer avec lui tous les jours de ma vie. On veut toujours plus. Dieu a toujours plus pour nous. Mais quand on traverse le désert, ça devrait nous garder. Je suis le pain de vie. Alors qu'un grand nombre qui le suivait pour les mauvaises raisons le guittèrent, Jésus dit alors aux 12, « Et vous? Vous ne voulez pas vous en aller, vous autres aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? » C'est toi qui les as, les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous, eux, ils ont compris. Avec ceux qui le suivent, pour la raison primaire. Jésus se retrouva quasiment seul, avec sa garde rapprochée, sa garde primaire que Jésus, lors de son dernier repas sur terre, nous rappelle qu'il est le pain de vie et demande de nous rappeler toujours qu'il est le pain de vie. Et ce matin, ça donne bien. Il nous a ordonné de s'en rappeler en prenant la Sainte Cène. Fait que qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va rendre gloire à Dieu pour le pain de vie et le sang qu'il a versé pour nous. Puis là, je ne sais pas si vous allez être game, si vous allez être willing. Mais au lieu que les placiers aillent vous porter la communion, j'aimerais qu'on prenne la communion tous ensemble, en avant. Fait qu'il pourrait y avoir peut-être deux personnes assignées pour distribuer les éléments.